France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend et ce matin face au chaos du monde. Dans ce monde de brut, un peu de poésie, on s'intéresse ce matin aux vertus consolatrices de la poésie. Des consultations, des prescriptions, des ordonnances poétiques existent dans les hôpitaux, les écoles, les théâtres. De nombreuses initiatives existent partout dans le pays. Plus l'état du monde s'aggrave, plus nous avons un besoin vital de poésie. Avec nous ce matin pour en parler, le romancier et professeur d'histoire de l'art Thomas Schlesser et l'écrivain Jean-Joseph Julot. Aragon aurait pu écrire des vers sur ce couple mythique du vendredi, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino. Bonjour Thibaut.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie, quel est le programme de votre punchline philo?
Alors une punchline peut-être pas très connue, mais c'est en tout cas la plus connue de son auteur, Ludwig Wittgenstein, qui conclut son Tractatus Logico-Philosophicus par cette formule: sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.
Bonjour Guillemette.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique Cinéma Télérama, quelle sera votre ordonnance de ciné-thérapie cette semaine?
Eh bien, le problème, c'est que comme tout repose sur une phrase qui débute ma chronique, si je dis cette phrase maintenant, c'est foutu. Donc écoutez Mystère.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse Weekend, l'émission qui prend du recul sur la vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Ce que le jeune adolescent découvre, par exemple, quand il découvre la poésie, c'est que la dimension que l'on pourrait appeler l'infini, la dimension secrète du monde, celle qu'on n'arrive pas à mesurer avec des mesures scientifiques, celle qu'on ne peut pas chiffrer, celle qu'on ne peut pas figer dans des formules ou des schémas, eh bien que cette dimension, la poésie, mystérieusement, et même à l'intérieur de ses mesures et de ses règles propres, semble l'introduire, la garder. Dans un poème de Baudelaire comme Le Balcon, eh bien, il y a tout l'infini de l'existence, tout le secret de l'existence qui est présent à l'intérieur d'un cadre très rigoureux. C'est ça peut-être la tâche la plus belle, la plus justifiée de la poésie, c'est qu'elle introduit dans notre vie comme une espèce de clarté qui viendrait du plus haut sur les objets quotidiens, sur les moments les plus simples et les plus quelconques de la vie, les plus communs de la vie. Elle introduit cette espèce de lumière.
L'immense poète Philippe Jacoté, en 1974, Philippe Jacoté, poète du doute et de la fragilité, décédé en 2021. Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour Ali.
Vous êtes directeur de la Fondation Hartung Bergmann, professeur d'histoire de l'art à l'École Polytechnique. Vous avez connu un immense succès international avec votre beau roman Les yeux de Mona et vous publiez votre second roman chez Albin Michel, Le chat du jardinier, un roman qui célèbre les pouvoirs extraordinaires de la poésie. Bonjour Jean-Joseph Julot.
Bonjour Ali.
Ancien professeur de lettres, essayiste, immense adorateur de la poésie, à laquelle vous avez consacré quantité de livres, la petite anthologie de la poésie française et la poésie française pour les nuls chez First. Une nouvelle édition paraîtra début mai. Que vous inspirent ces mots de Philippe Jacoté, Thomas Schlesser?
Écoutez, d'abord, entendre la voix de Philippe Jacoté, c'est très émouvant. Bien évidemment que la poésie est du côté de la clarté. L'image qu'on a souvent des poètes et de la poésie, c'est une image mélancolique. C'est le stéréotype de la tristesse, du deuil et du chagrin. Et c'est en grande partie vrai. Bien évidemment, les vers de Verlaine qui parlent de ses souffrances, les sanglots longs des violons de l'automne. Bien évidemment, tout ça est exact. Mais la poésie, c'est aussi un élan heureux. La poésie, c'est aussi une force de résistance. C'est un cri de révolte. C'est aussi beaucoup d'humour. Avec Jean-Joseph, évidemment, si on commence à parler poésie, on se citera plein de poètes qui nous font rire. J'en sais rien, Raymond Queneau, tant d'autres. Donc, c'est en effet du côté de la lumière et d'un chemin à la fois intérieur et puis je dirais d'une grande solidarité collective qu'il faut voir le terrain poétique.
Jean-Joseph Julot, sur ces propos lumineux de Philippe Jacoté.
Je suis tout à fait d'accord avec Philippe parce que d'abord je voudrais dire que ce livre qu'il publie est une extraordinaire façon de ramener les gens à la lecture de la poésie parce que
notre héritage. Là vous parlez de Thomas Schlesser.
Thomas Schlesser parce que notre héritage poétique est fragile. Si on ne le transmet pas, il risque de se dissoudre, de se diluer et finalement dangereusement de disparaître petit à petit. Et là, le fait qu'on y retourne, peut-être par nostalgie pour les retrouver les souvenirs d'enfance, peut-être aussi parce qu'on en a besoin, comme vous le disiez, cette espèce de chagrin diffus qui nous habite quelquefois et qu'on dissout avec justement un poème que je compare quelquefois à, vous savez, quand vous avez un mal de tête, vous prenez un doliprane, et bien le poème c'est le doliprane de l'esprit, ça va vous clarifier, ça va dissoudre le chagrin et ça va permettre d'aller plus loin. Et ça nous construit aussi.
Pourquoi la poésie est-elle aussi fondamentale dans vos vies? Vous, Thomas Schlesser, vous lisez de la poésie depuis l'âge de 12 ans?
Oui, en fait, moi je fais partie de ces gamins qui étaient des mauvais élèves. Et je dis ça, ce n'est pas une coquetterie, parce qu'aujourd'hui, évidemment, comme j'ai ce parcours où je suis professeur à l'école polytechnique, romancier, on pourrait imaginer que j'ai toujours été bon élève. C'est totalement faux. J'étais un adolescent, pas très turbulent, mais qui n'aimait pas l'école. Et la poésie est entrée par effraction dans ma vie, pas du tout par le biais des cours, mais par une lecture au hasard de Guillaume Apollinaire, où tout à coup, je découvre des textes auxquels je ne comprends rien, puisque j'ai 12-13 ans, mais où je vois qu'il n'y a pas de ponctuation, qu'il y a des vers libres, qu'on peut dire un peu ce qu'on veut. Et je me dis, mais bon sang, on peut avoir accès à un langage complètement affranchi des normes, on peut le faire sien, et donc on peut parler à sa manière. Et ça m'a vraiment bouleversé existentiellement.
Jean-Joseph Julot, comment est né votre éveil à la poésie?
C'est un peu de la même façon que pour Thomas. Et puis, vous avez raison de dire qu'en fait, le poète est un guide. C'est celui qui va nous aider à entrer dans un autre univers. Parce que tout ce qui est, disons, impalpable, tous les éléments de la nature qu'on ressent confusément, eh bien, le poète nous guide vers toute cette forêt de symboles, comme dit Baudelaire. Et puis, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. La sensibilité du poète nous entraîne vers notre propre sensibilité, la clarifie et la développe.
Face à un monde chaotique, anxiogène, sans repères, nous avons plus que jamais besoin de poésie, Thomas Schlesser. Sans la poésie, le monde que nous endurons serait invivable.
Je ne crois pas malheureusement que la poésie ait le pouvoir de tout sauver. Mais vous voyez, vous dites un monde chaotique. La poésie crée en fait des harmonies secrètes. Pourquoi est-ce que nous aimons tant les rimes ? À la fois dans la chanson, dans les poèmes. Mais parce que la rime, c'est une manière très simple, presque naïve, de mettre les choses en correspondance. Et par conséquent, de donner le sentiment qu'il y a une unité du monde qui se dessine par le langage derrière cet apparent désordre. Et ça, c'est absolument formidable. C'est une des vertus parmi tant d'autres de la poésie.
Jean-Joseph Julot.
Comme définition de la poésie, j'aime bien celle de René Guicadou, la poésie est inutile comme la pluie. Voilà.
C'est génial.
Thibaut de Saint-Maurice.
En parlant de la rime, vous avez évoqué la chanson. Est-ce que on a l'impression aujourd'hui, en tout cas dans notre époque, dans notre culture, que peut-être les chanteurs, en tout cas les auteurs, compositeurs, interprètes qui écrivent leurs textes et qui les interprètent et qui ont recours à des instruments de la poésie, par exemple la rime, etc., sont beaucoup plus écoutés, présents? Quelle différence vous faites entre ces deux dimensions-là, en tout cas, du travail sur les mots et sur les images?
Alors, je dirais une première chose, c'est que moi, je me refuse la démagogie de penser qu'en quelque rappeur que ce soit, il y a un René Char qui s'ignore. Il ne faut pas exagérer. Ceci étant, une fois que j'ai dit ça, pour prendre des précautions, bien évidemment qu'il y a une continuité entre les grands textes poétiques et la chanson populaire ou le rap aujourd'hui, bien évidemment. D'ailleurs, la poésie est historiquement complètement associé à la musique. Pendant l'Antiquité, on chantait la poésie. Et puis, il y a une musicalité intrinsèque dans la poésie. Et il faut bien dire une chose, c'est que dans Le Chat du jardinier, j'intègre d'ailleurs des chanteurs dans le roman. Il y a par exemple Georges Brassens, merveilleux poète s'il en est.
Il y a Léo Ferré.
Alors, j'ai mis Léo Ferré, absolument.
Ah, ça va.
J'ai mis Léo Ferré. C'est les anarchistes que j'ai mis de Léo Ferré. En plus, Léo Ferré a lui-même interprété
énormément de
poètes.
Aragon, notamment. Alors, Le Robert nous dit que la poésie, c'est l'art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, vers ou prose, l'harmonie et l'image. C'est aussi le caractère de ceux qui éveillent l'émotion poétique. Mais Thomas Schlesser, je préfère votre définition, page 81 de votre roman. La poésie, cette troisième corde vocale vibrant en chacun de nous ?
Alors, la première chose à dire, c'est que, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, c'est que nous n'avons que deux cordes vocales. C'est la première chose à dire. Notre voix dépend de deux cordes vocales. Et je crois que la troisième, c'est en effet la poésie, en ce sens que quand nous connaissons des poètes, nous avons une petite voix intérieure supplémentaire. C'est l'avantage de connaître de la poésie par cœur, c'est que ce sont comme des fantômes qui nous accompagnent et qui, en effet, je dirais, prennent possession de notre bouche, de notre palais. Aimé Césaire disait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. »
Jean-Joseph Julot.
Bravo, alors là, c'est formidable. Non, effectivement, moi je pense que l'institution scolaire ferait bien peut-être d'insister sur l'apprentissage par cœur des poèmes. Je me rappelle qu'il y a 20 ans, 30 ans, je donnais un poème à apprendre tous les 15 jours à mes élèves et ça crée dans la mémoire des petits relais. Quand on dit « Heureux qui comulis, ça fait un beau voyage », aujourd'hui je ne suis pas sûr que tout le monde sache parmi les jeunes de quoi il s'agit. Mais pour nous, eh bien, ça évoque tout un passé, ça évoque l'école, ça évoque bien sûr ce moment où la mémoire se construit par la répétition, et c'est un trésor, parce qu'on parle beaucoup de la perte de la mémoire de nos jours, de la maladie d'Alzheimer, etc. Mais quand on mémorise des poèmes, c'est un petit univers où tout est parfait, où tout s'harmonise, où tout est extraordinairement musical, et on est bien quand on quitte le langage ordinaire et quand on entre dans son langage auquel, comme vous le disiez, quelquefois on ne comprend rien, mais c'est tellement bien de ne rien comprendre, parce que la poésie, eh bien, ne résout pas le mystère, elle le densifie, et c'est ça qui est confortable.
Guillemette ?
Ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire, parce que récemment, j'ai une grande amie qui m'a raconté que son papa, qui est vraiment atteint là d'un Alzheimer très, très important, qui a fait une espèce de, un peu de crise, de démence, elle a réussi à le calmer, parce que c'est un homme très cultivé, qui aimait beaucoup les auteurs et tout, elle a réussi à le calmer en lui lisant de la poésie. Et soudainement, il s'est totalement apaisé et il a même repris des vers pour suivre les poèmes qu'elle lisait. Et elle m'a dit que c'était un moment absolument de grâce et de guérison.
Alors le poète et professeur Michael Edwards nous dit ceci, la première vertu de la poésie serait de nous donner un accès plus intime au réel, de changer ce faisant notre perception du réel et de suggérer la possibilité d'un changement véritable. Et ça me fait penser à votre personnage Louis le jardinier, Thomas Schlesser, qui est très sensible à ce que dit le poète allemand Rainer Maria Rilke sur la force créatrice de la langue qui fait exister la nature, sur le fait que c'est la poésie qui construit l'univers et la nature environnante.
Exactement. En fait, en enrichissant notre langage et en élargissant le spectre et les possibilités, on intensifie notre rapport au réel. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, dans le roman, Louis entend ces vers de Verlaine qui parlent donc d'une aube, et ça donne « Une aube affaiblie verse en de doux chants la mélancolie des soleils couchants ». Et ces vers sont tout simples. Ils associent en fait le miracle du jour naissant avec le parfum de celui qui finit. Et c'est incroyable parce qu'une fois qu'on les a en tête, on retrouve ces sensations quand on est devant le spectacle de la nature. Et j'insiste, du coup, le langage n'est pas du tout découplé de nos expériences, mais au contraire, permettre de leur donner une densité, une profondeur encore plus grande.
Est-ce que vous pensez que la poésie permet de mieux percevoir l'invisible, Jean-Joseph Julot ?
Bien sûr, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que Michel Houellebecq, vous savez, publie en ce moment, depuis hier d'ailleurs, son nouveau recueil, que je suis en train de lire. Et puis, il dit, la poésie ressortit bien plus qu'au divin, elle ressortit à tout ce qui précède le divin. Il y a quelque chose d'inexprimable quasiment, qui trouve sa voie à travers la poésie. Et c'est ce qui nous lie à elle et qui nous rend aussi amoureux des vers qu'on lit, que cette façon de nous traduire le monde alors qu'on n'a pas forcément la perception de cet invisible, justement.
Thomas Schlesser, est-ce que lire, déclamer de la poésie, ça influence sur votre perception du monde? Est-ce que ça vous aide à percevoir la substance poétique des choses?
Oui, et vous faites bien d'insister sur la dimension orale. Moi, la poésie, je la lis à voix haute. Et j'invite tous les gens qui veulent s'initier à la poésie à le faire soit en l'écoutant qui est déclamé, soit en déclamant eux-mêmes. Parce que ça permet tout de suite de donner, je ne sais pas comment dire, une espèce de chair à la parole. Vous voyez, il y a un truc un peu plus charnel qui se passe. Et c'est un exercice très important pour celles et ceux qui ont du mal à s'exprimer. C'est difficile parfois de dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Eh bien, avec un poème, vous avez l'occasion d'extérioriser une part de vous-même en empruntant un peu au génie des fantômes qui nous ont précédés. Voilà.
Et puis, cette manière de parler à vous, disons, à voix haute, de poétiser à voix haute, ça élimine aussi la notion, bizarrement, de l'intelligibilité. Quand on disait que la poésie, c'est même avant le divin, même avant le sens des choses, ce qui est très beau, c'est que quand on lit un roman, normalement, c'est quand même le minimum qu'on doit tout comprendre. Et si on ne comprend pas, on est un peu embêté. La poésie, c'est pas, la question n'est pas là, elle n'est pas dans la question que ce soit forcément intelligible. C'est une résonance. Et ça, je trouve que c'est aussi très réconciliateur avec le pouvoir des mots. C'est-à-dire, c'est pas grave si on ne comprend pas tout. Ce qui compte, c'est le battement que ça provoque en nous, quoi.
Alors, à celles et ceux qui trouvent la poésie ennuyeuse, ésotérique, incompréhensible, votre roman Thomas Schneesser pourrait les faire changer d'avis. Le chat du jardinier raconte l'histoire de Louis, un jardinier puissant et taiseux qui exerce dans l'arrière-pays provençal avec son chat malade d'une forme de cancer, un jardinier imposant dont, je vous cite, le poids fait craquer le canage des chaises. C'est un jardinier hypersensible depuis son plus jeune âge. Il est déprimé par la mort annoncée de son chat. Et à son propos, je vous cite, la bonté de son cœur avait transformé celui-ci en organe tendre et friable comme l'argile. Alors, il y a sa voisine, Tali, prof de français retraitée, qui lui propose un marché. Elle l'initie au pouvoir de la poésie et il s'occupera de sa magnanerie. La magnanerie, c'est l'ancien élevage de vers à soie. Et au contact de Tali, ce jardinier va s'éveiller aux merveilles de la poésie et son hypersensibilité va résonner avec la poésie que lui raconte, cette histoire de la poésie que lui raconte cette ancienne professeure de français.
Oui, l'hypersensibilité. Je suis sûr qu'il y en a plein qui écoutent cette émission et qui se reconnaissent là-dedans. Il n'y a pas vraiment de définition de l'hypersensibilité. On sait si on l'est ou pas, en fait.
Non, il y a une définition que vous donnez.
Ouais.
Une intensité, une densité de sens qui échappe au regard ordinaires.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les hypersensibles, ils ont l'impression d'être excédés par tout ce qu'ils... Excédés dans le sens de dépasser, pas d'énerver. Ils ont l'impression d'être excédés par tout ce qu'ils reçoivent, soit en informations positives, soit négatives, et que le langage n'est pas, ne parvient pas, en fait, à ramasser toutes ces sensations diffuses. Et en ce sens, leur cœur devient friable, parce que il y a une espèce de panique intérieure. Et Louis est ainsi. Alors, Louis, c'est de plus charmant chez lui que donne le sentiment d'être un énorme colosse, mais à l'intérieur il y a cette argile du cœur. Et en effet, le pacte qu'il passe avec Tali est très beau parce que il y a une horizontalité entre eux. C'est pas la professeure qui va juste lui apprendre la poésie. Il s'agit pas d'un truc didactique, normatif. Non. Lui, il va quand même s'occuper de son jardin. Et le chat du jardinier, c'est aussi une ode à la nature, et notamment à l'arrière-pays provençal, qui est mon pays d'origine et que j'adore. Et donc, entre les deux, comme ça, va s'opérer une espèce d'échange qui est, comme disait l'autre en son temps, gagnant-gagnant.
Ce qui va séduire Louis, c'est de retrouver un maximum de sens et d'émotion dans une forme concentré dans le texte resserré que constitue un poème.
Mais oui, parce que c'est ça qui est formidable avec la poésie, c'est que c'est une concentration, c'est court. Comment dire ? On parlait à l'instant de l'investissement qu'il faut pour lire un roman. Bon, c'est un investissement long. Un poème, un haïku, ça peut se lire en 5 secondes, un sonnet, ça se lit en 1 minute. Et donc, cette concentration, elle est formidablement salutaire parce que en très très peu de temps, il peut y avoir un effet maximal. Et c'est pour ça qu'on aime... Avec Jean-Joseph, on se citait des vers comme ça juste avant l'émission. On aime se citer des vers parce que un seul vers, c'est un peu comme une décharge électrique. Vous voyez, par exemple, j'en donne un sur la douleur. Quand Baudelaire s'adresse dans Recueillement à sa souffrance et lui dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». C'est très simple, c'est juste un vers. Mais c'est un vers, c'est d'ailleurs très amusant, parce qu'en fait, Baudelaire, d'une certaine manière, s'adresse à sa souffrance comme s'il s'adressait à un « Bon, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Vous voyez, il y a presque une légère part d'humour là-dedans. Et quand on a ça en nous, ça permet, encore une fois, ça permet pas de tout guérir, mais un peu de consoler quand même.
Elle ne se plaint jamais, sauf pour demander une augmentation.
Donc,
de façon pas très poétique, Guimet Todisino et sa cinéthérapie. C'est gratuit, je sais.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, cher Ali, les poèmes sont des mots, évidemment. Mais les poèmes sont aussi des gens. Ne dit-on pas « Ah, cette fille, c'est un poème !» Non mais t'as vu ce mec, mais quel poème ! J'adore cette expression, autant que ceux qui la méritent, c'est-à-dire les doudingues, les mal réveillés, les extravagants, les illuminés. Leurs corps sont des rimes, et souvent d'ailleurs, ils manquent un pied à ces rêveurs qui préfèrent planer, et ils ont tellement raison de se décoller du réel. L'autre soir, à la cérémonie des Césars, une actrice monta sur scène, avec sa belle silhouette de circassienne et ses grands yeux noirs un peu perdus, pour recevoir sa récompense pour son second rôle dans L'Attachement de Karine Tardieu. Où, à un moment du film d'ailleurs, elle se déguise en sapin de Noël, je cite, « pour se fondre dans le décor ». Vima la Ponce est un poème. Et dans son discours, évidemment, elle exprima son affection pour des mecs qui riment avec elle, comme Karim Leclou ou William Legbill. Ce merveilleux comédien aux yeux ronds et aux boucles en bataille qui a toujours l'air de sortir de son duvet. J'ai choisi un film donc qui réunit Vimala et William. Une des meilleures comédies d'il y a 2 ans, Le beau rôle de Victor Rodenbach, où Henri et Nora vivent des aléas de couple et de création artistique parce que soudain, alors qu'ils ont toujours été liés par le théâtre subventionné, voilà qu'Henri glisse vers le cinéma.
Ok, on y va ?
Je me présente, je m'appelle Henri.
Tes parents étaient fans de Balavoine.
C'est un personnage qui est en dépression, Ivanov. Et ça m'a fait penser à Marty McFly dans Retour vers le futur 2.
On a créé la compagnie quand on était étudiants et on a fait tous nos spectacles ensemble.
C'est un casting qui est important, tout parier sur le coup là.
Le bout du risque.
Ça te parle ?
Bah ouais, regarde-moi. C'est l'aventure qui coule dans mes veines.
Oui, alors bon, quand on entend William Legbill dire « l'aventure qui coule dans mes veines », vous voyez, c'est plutôt « mais à deux à l'heure », hein, voilà. Donc, réinventer la comédie romantique du remariage, en fait, c'est tout simple et formidable, si on sait, comme Victor Rodenbach, jouer avec les mots et les situations burlesques, et que surtout, on choisit pour les porter une actrice et un acteur divinement suspendus, comme Vimala et William. À noter que le réalisateur dans le film est joué par Bruno Podalides, qui dans le genre poète qui plane à 3000 n'est pas piqué des vers non plus. Dans le genre suspendu, nous avons aussi... Tiens, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma relance, Ali. Je ne vous l'ai pas écrite. Oh là là, mais quel étourdi je fais.
Alors, ça vous laisse plus de temps comme
oui,
ça.
Oui, dans le genre suspendu, nous avons aussi, et le titre parle de lui-même, Sur la branche de Marie-Garel Weiss, réalisatrice disparue bien trop tôt l'année dernière. C'est l'histoire de Mimi, jeune trentenaire qui souffre de problèmes psychologiques, mais qui tient à devenir avocate. Quand un séduisant voyou lui demande de l'aide, la délicieuse dingote prend le dossier très au sérieux, entraînant dans son sillage un vieil avocat qui passe ses journées en robe de chambre en attendant d'être rayé du barreau.
Je parle anglais, espagnol, je parle italien, je parle français aussi, mais ça compte pas comme une langue.
Le français ?
Oui.
Non. J'ai quelque chose de particulier à vous proposer.
C'est urgent, c'est mon cabinet Rousseau et Bloch qui m'envoie.
C'est moi, Rousseau et Bloch.
C'est dangereux.
Ah, c'est pas dangereux, c'est compliqué.
Dites-lui que j'ai du chagrin.
Il a dit chagrin ?
Non, dites-lui plutôt que j'ai de la peine. Voilà, ça c'est bien.
Peine, il a dit peine, pardon.
Ah.
Vous avez quand même un petit problème psychologique, non ?
Bah oui. Là, c'est la merde. Là, j'ai l'impression de tricoter un pull avec des pattes.
Alors, tricoter un pull avec des pattes, hein. C'est pas imagé, ça. Alors, il y a vraiment de drôles d'oiseaux dans ce film virevoltant où le déséquilibre devient un magnifique ressort de comédie et où l'impromptu embrasse les cabossés de la vie. Avec un quatuor d'acteurs et d'actrices qui appartiennent aussi à l'indispensable famille des perchés. La formidable Daphné Patakia et son regard écarquillé, son charme éberlué. Benoît Poelvoorde, irrésistible en vieux héron qui se remplume en se faisant marcher sur les pieds. Ou encore Agnès Jaoui et Raphaël Quenard. C'est avec ce genre d'interprète, ce genre de film, qu'on peut, au milieu des bombes, croire encore à la poésie des êtres.
Docteur Audicino, rappelez-nous votre ordonnance de cinéthérapie.
Le beau rôle est sur la branche.
Et on peut podcaster votre chronique sur l'appli Radio France. On continue à s'intéresser aux vertus consolatrices de la poésie, juste après avoir écouté Charles Aznavour. Et pourtant, une chanson de 1963.
« bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Il faudra bien que je retrouve ma raison.
Charles Aznavour interprété Et pourtant.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
J'ai un petit secret à vous dire. On lit ou on écrit de la poésie non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, « Oh moi, oh la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots, qu'y a-t-il de bon en cela, oh moi, oh la vie ?» Réponse. Que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime ?
Grand bien vous fasse week-end et on s'intéresse ce matin aux vertus consolatrices de la poésie avec le romancier Thomas Schlesser et l'écrivain Jean-Joseph Julot. Que vous inspirent ces mots du professeur Keating interprétés par Robin Williams dans Le cercle des poètes disparus de Peter Weir, Thomas Schlesser?
Oh, c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Il se trouve c'est drôle parce qu'en plus Philippe Torreton réinterprète en ce moment Le cercle des poètes disparus au Théâtre Antoine.
La pièce est fabuleuse. Hein. Oui, enfin, moi je l'ai vue avec très, Stéphane Fraisse. C'est très réussi. Ouais,
absolument. Et là en l'occurrence donc c'est un poème de Walt Whitman qui est je trouve parfaitement à propos parce que c'est un poème qui reconnecte à chaque fois le verbe et l'existence qui évite de nous laisser penser bêtement que la poésie serait coupée de la chair du monde. Non, et donc, très, très, très beau passage.
Jean-Joseph Julot, je vous imagine en professeur Keating quand vous étiez professeur.
Oui, c'est vrai. Le professeur Keating, moi j'ai beaucoup aimé le film aussi. Je le trouvais un petit peu insistant, un petit peu. Je ne veux pas dire un dictateur par rapport à la poésie, mais j'ai trouvé une autorité écrasante. Et alors, tous les élèves le suivaient, et je me suis dit, mais bon, il les dirige vers la poésie. Mais s'il les dirigeait vers, je ne sais pas, un crime, par exemple, mais ils y courraient. Et ça me gênait un petit peu, et ça m'a toujours gêné un peu, ce rôle du professeur.
C'est un peu l'aspect noir du film, c'est-à-dire qu'il les dirige vers une très grande mélancolie,
mais
pour
oui,
certains.
Mais oui, c'est
il,
ça.
Il les dirige vers la fatalité. Donc, oui. C'est sûr que c'est aussi le... Enfin, ça montre aussi comment... la poésie peut être ô combien lumineuse, oui. Mais qu'il faut savoir la conduire.
Exactement, exactement.
Thibault.
Et puis il y a dans ce film, en tout cas, et peut-être plus largement, l'expression d'une, ou la mise en scène d'une sensibilité particulière à la poésie à l'adolescence. Mmh. Et ça, oui. C'est aussi peut-être une question à se poser. C'est, ouais. C'est quand bien même on ne se sent pas particulièrement destiné à la poésie, on a l'impression qu'à l'adolescence, il y a un créneau, là. Il y a un moment.
C'est le créneau rimbaldien.
Voilà, oui, où tout d'un coup, si ce n'est on se met à lire de la poésie, du moins, peut-être, la première fois qu'on tombe amoureux, on va écrire quelques vers sur un bout de papier.
Alors la poésie, c'est aussi de la musique, c'est-à-dire du rythme, de l'harmonie, des sonorités entre les mots. C'est cette musique de la poésie qui détient également le pouvoir de nous consoler.
Oui, bien évidemment, la musicalité, le rythme, le fait d'être entraîné. J'ai presque envie de dire que de temps en temps, c'est un peu comme une incantation. On en a parlé, il y a ces moments où la poésie, on ne comprend plus ce que ça veut dire. Mais... La rythmique du verbe même devient comme une incantation magique. Quand par exemple Mallarmé, c'est Jean-Joseph qui en citait tout à l'heure avant l'émission, quand Mallarmé écrit « Ses purs ongles très hauts dédiant l'oronyx, l'angoisse ce minuit soutient l'ampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix, que ne recueille plus de cinéraire en fort, sur les crédences au salon vide nulptix, abolit bibulot d'inanité sonore. » On vient de perdre la moitié de votre auditoire.
Non, pas du tout.
Et j'en suis très fier parce que perdre la moitié d'un auditoire avec du Mallarmé sur France Inter, c'est hyper chic, vous pourrez être très fier de vous. Mais vous voyez, Mallarmé, on ne comprend quasiment rien, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe, une forme qui apparaît.
La musique de l'élégie, c'est une musique qui séduit votre jardinier Louis, l'élégie où l'on exprime une plainte et Louis, votre héros, éprouve un besoin contrarié de se plaindre.
L'élégie, c'est donc la tonalité de la plainte. Et qu'est-ce que c'est que la plainte ? La plainte, c'est quand il y a quelque chose qui est plus grand que vous. Et une douleur qui est trop intense, elle vous excède, elle vous dépasse, et il ne reste plus que la plainte. Et dans ce cas-là, la poésie devient en effet cette expression de ce qui est plus grand que soi-même.
Jean-Joseph Julot.
Oui, la poésie a une dimension qui nous dépasse, et évidemment. La musique aussi, dans les vers, par exemple, de Verlaine, m'a toujours charmé, moi. Je pense à ce poème, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à propos de ce que vous disiez à propos de l'adolescence. Quand on découvre ce poème, il y a tout un horizon qui s'ouvre. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. On a ses ans, c'est urne, c'est de la musique en fait. Et puis, c'est ce qui nous prend vraiment comme une mélodie et qui nous charme, puisque le charme, ça rejoint l'incantation, ça rejoint la formule magique sur le plan étymologique.
Alors, Thomas Schlesser, de quoi vous a guéri la poésie ? Vous avez raconté la semaine dernière au micro de notre amie Mathilde Serrel que vous aviez souffert de dépression. Oui. Comment la poésie vous a aidé à surmonter cette épreuve ?
Je pense qu'il y a eu un petit avant-après très salutaire avec Nicolas de Morant, qui, grande personnalité publique, qui à un moment donné dit « Oui, je souffre, en l'occurrence chez lui, de bipolarité, hein, maniaco-dépressif. Moi, je suis dépressif. » Et le fait qu'il y ait comme ça des grandes figures comme Nicolas de Morant qui le disent, je pense que c'est formidable parce que ça permet d'en parler entre nous. Être dépressif, c'est une maladie, ça arrive, c'est très dur. Mais voilà, on n'est pas tout seul à traverser cela, ce moment où le cerveau devient comme une espèce de coque complètement hermétique à toute information positive. On n'assimile plus la lumière. Et les poètes, dans ces moments-là, j'aurais tendance à dire qu'ils accélèrent le canal des larmes, parce que vous les ressentez plein pot quand vous les lisez. Alors quand vous êtes en moment de dépression et que vous lisez les poètes, vous dites « ils sont aussi lucides que moi sur la finitude de l'existence, sur le fait que vivre, c'est compliqué. Mais, quel bonheur c'est aussi par moment de pouvoir épancher son chagrin. » Et donc, la poésie, dans ces moments-là, c'est à la fois la pire des hostilités, parce que ça vient vous confirmer quand même que c'est pas simple. Et c'est la meilleure des alliés, parce que ça vous offre un souffle de résistance.
Avec les antidépresseurs et la thérapie, la poésie vous a sauvé la peau ?
Oui, elle m'a sauvé la peau. Elle m'a surtout sauvé la peau à l'adolescence, parce que j'étais un adolescent, comme plein d'adolescents, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans mon corps. Et la poésie, vraiment, de ce point de vue-là, a été extraordinairement salutaire. J'insiste sur une chose, Ali, non pas parce que j'en écrivais, mais parce que j'en lisais. Je voudrais vraiment bien insister là-dessus. Le chat du jardinier, c'est un plaidoyer pour lire de la poésie. C'est très bien d'en écrire, mais écouter la voix des poètes, c'est une façon encore plus simple et directe, à mon avis, d'accéder à une meilleure partie de son être.
Vous écrivez que le poème est un... est un espace de dialogue avec la douleur.
C'est exactement ça. Le poème est un moment où, en fait, on peut mettre sa douleur un peu à distance et parler avec elle, c'est-à-dire, pour le dire en d'autres termes, l'apprivoiser. Et quand on lit, par exemple, à la Renaissance, les grands poèmes doloristes d'une poétesse comme Louise Labbé, grande poétesse du XVIe siècle, une des premières voix féministes de la littérature française, Louise Labbé, au fond, demande l'autorisation, enfin elle ne la demande pas, elle la prend, à dire ses chagrins d'amour. En tant que femme, au XVIe siècle, il faut quand même mesurer le courage politique et social qu'il faut pour ça. Et donc, bah, évidemment, en mettant cette douleur un petit peu à distance, en la regardant en face, elle l'apprivoise quelque peu.
Jean-Joseph Julot, sur la poésie comme espace de dialogue avec la douleur.
Oui, comme espace de dialogue avec la douleur, effectivement, quand on rencontre la douleur et qu'on comprend ce que j'appelais le doliprane de l'esprit, c'est-à-dire le poème, deux poèmes le matin, deux poèmes le soir, c'est extraordinaire, ça vous soigne en très peu de temps. Et puis, si vous continuez cette posologie pendant un mois, mais vous êtes guéri, forcément, parce qu'il y a des mots qui se sont imprégnés en vous, il y a des images, il y a une musique, et vous changez. C'est d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent peuvent en faire l'expérience. Cette ordonnance, je la donne gratuitement, hein, tous les mois, pendant tous les jours, le matin et le soir, deux poèmes le matin, deux poèmes le soir. Et même un au milieu de la journée, pour digérer.
Au fil de votre roman, Thomas Schlesser, la poésie va réparer votre jardinier, Louis, en lisant quelques vers des Fleurs du Mal de Baudelaire. La douleur du jardinier s'apaise.
Oui. En plus, ce qu'il y a d'incroyable avec Baudelaire, c'est que c'est une poésie qui est toujours tendue entre le spleen, c'est-à-dire la douleur, mais aussi l'idéal. Baudelaire est capable de chanter la lumière, de dire des horizons lointains à la fois inaccessibles et magnétiques, et Baudelaire est même capable d'un certain humour. On ne le soupçonne pas, mais par exemple, il y a un poème très connu qu'on étudie beaucoup au collège qui s'appelle « Une charogne ». Et ce poème, on croit que c'est un poème très grave, très sombre. En fait, c'est de la blague, mais de la blague géniale. Baudelaire imagine une charogne en train de moisir et il transforme celle-ci en créature érotique. Ça donne « Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux ?» Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant des poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons.
La poésie répare, mais elle rend également plus intense que nous vivons, Jean-Joseph Julot. Je pense à la poésie amoureuse.
Oui, la poésie amoureuse qui, sous tous ses aspects, eh bien, exalte soit la passion, soit la tristesse, soit le désir, soit toutes sortes de sentiments qui, à travers les poèmes, eh bien, se retrouvent, comme on le disait tout à l'heure, concentrés d'une façon telle que, eh bien, il y a quelque chose de parfait qui s'inscrit en nous et qui nous permet d'exprimer tout ce qui serait inexprimable autrement, oui.
Thomas Schlesser.
Oui, c'est un grand cri d'amour, la poésie. C'est le langage de l'amour. Là encore, on pourrait citer une quantité d'exemples. On parlait de Louise Labbé, mais ça peut être aussi les poètes surréalistes comme Robert Desnos. Ah, je veux pas étouffer l'émission sous les citations, mais juste ces magnifiques mots de Robert Desnos. « J'ai tant rêvé de toi que j'ai perdu ta réalité. » J'ai tant parlé, marché, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre cent fois que l'ombre, qui marche et marchera éternellement sur le cadran solaire de ta vie. L'amour, la passion, le désir infusent la poésie depuis les origines, depuis l'Antiquité. Et je crois que quand on aime, la poésie est vraiment une formidable alliée pour dire à quel point on aime, parce que c'est difficile de dire à quel point on aime sans tomber dans le lieu commun. Oui. Vous savez, très souvent, on a envie de dire à son chéri ou sa chérie à quel point on l'aime, mais on s'est dit, oh là là, si je lui parle de ses yeux comme une mer dans laquelle je vais me noyer, je vais passer un peu pour un imbécile. Lisez des poètes, vous trouverez des images très originales.
Jean-Joseph Julot.
Oui, Thomas, il est brillant, il est extraordinaire, on l'écouterait pendant des heures. Mais j'ai une question quand même à lui poser, à propos du chat du jardinier. Le chat, Pourquoi vous lui avez pas donné de nom au chat, ce chat noir, qui est extraordinaire, il me bouleverse, parce qu'il est là entre la vie et peut-être sa disparition. Et on est, j'attends ce son destin, mais je sais pas comment l'appeler.
Quel nom ? Il faudra lire la dernière page pour voir là, c'est toute une quête. C'est l'occasion de dire que le chat de Jean-Joseph, lui, s'appelle Marcel. C'est un prénom possible pour vos animaux.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, pour revenir sur la poésie et l'amour, en fait, il faut convenir aussi que les mots dont nous disposons dans le langage ordinaire pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, en fait, sont d'une pauvreté absolue. C'est-à-dire que tout et tous autant que nous sommes, nous avons des affections, qu'elles soient amoureuses, filiales, etc., ou amicales, et on ne dispose en tout et pour tout que des trois mêmes mots pour exprimer ça, je t'aime, d'ailleurs, dont on dit que c'est à la fois, on est tellement un peu déçu d'avoir ces mots je t'aime qu'on dit, bon non, mais en fait, oui, la première fois qu'on le dit, c'est une information, et après, en fait, c'est une sorte de phrase performative qui atteste de l'amour, etc. Mais en réalité, on a beaucoup plus de mots pour parler, je sais pas, de son travail, du jardinier, du temps qu'il fait, etc., que pour parler de ce qui, quand même, nous occupe une bonne partie de notre vie, et à l'intérieur de laquelle on a l'impression que, ok, moi je t'aime, mais je t'aime de toute façon différemment que tous les autres qui t'ont aimé, et de toute façon j'aime aussi différemment que la manière dont tous les hommes qui ont pu exister sur cette terre ont pu aimer. Et, alors, cette idée, elle vient pas de moi, je vous ai fait vite, mais c'est une idée de Bergson, qui est un très beau texte de Bergson, où il explique ça, que en fait, ces mots-là sont tellement pauvres que, en fait, on est obligé de passer à ce qu'il appelle la métaphore, donc voilà. De passer à l'image, parce que, en fait, sinon, on se retrouve dans un piège de l'indicible.
Oui, c'est exactement ce qu'on trouve dans Cyrano de Bergerac. Lorsque Christian de Villette dit à Roxane, oui, « Je t'aime », et que Roxane, j'espérais quand même autre
c'est
chose.
Tout.
De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour de 12 mai, pour le sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement aimé ta chevelure que comme lorsqu'on voit les rayons du soleil. Enfin bref, c'est une façon de dire « je t'aime » qui est développée par Cyrano et qui est magnifique. De tout quand... Enfin, je terminerai ça demain.
Je voudrais juste dire une petite chose. On parle beaucoup d'amour, mais les poètes, c'est aussi la colère. Ils disent à notre place des rages. Je pense par exemple, parce que je vais le placer comme ça, ce sera fait. René Char, mon chéri de René Char, qui est un poète à la fois de l'aphorisme, de la résistance, de l'antithèse, enfin, et pour le coup très intelligible. Je le cite juste une fois pour bien montrer à quel point les poètes peuvent être d'actualité. Il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments. Eh bien moi, ça, je trouve que c'est une phrase qui englobe toute la colère qu'on peut éprouver de nos jours contre beaucoup de gens, beaucoup de dirigeants par exemple. Donc cette manière aussi de nous donner des phrases beaucoup plus brillantes que nos pauvres phrases colériques, ça c'est aussi une force, ça c'est un cadeau.
Un poème à partager, Thomas Schneisser, Jean-Joseph Julot.
Ah bah écoutez, on peut se faire le cancre de Prévert. Hein. Et juste avant de le faire, juste un mot, être bien attentif au fait que même si c'est un poème très simple, c'est un poème qui fonctionne sur le registre de l'antithèse, petite figure de style, c'est-à-dire des oppositions entre les termes. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Poème de Prévert, Jean-Joseph Julot.
Un poème de Gérard de Nerval, Fantaisie. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques, à coin de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vue et dont je me souviens.
Fantaisie de Gérard de Nerval. Dans un instant, tout autre genre avec la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. Allez, on écoute Alani qui interprète This Way.
This is why when you tell me that you love me, something you said oh 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the, I'm scared it's you.
Alani interprétée This Is Way.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a des remords est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Si.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, dans votre punchline philo, vous vous attaquez à la phrase la plus connue du pas très connu philosophe Ludwig Wittgenstein. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.
Oui, elle dit, alors cette formule, elle sonne d'abord comme étant un peu obscure, et c'est donc la dernière phrase d'un livre au titre non moins obscur, le Tractatus Logico-Philosophicus, écrit par Wittgenstein donc en 1921, et qui, paradoxalement, après avoir parlé, argumenté, démontré, semble finir par nous donner une leçon de silence. Alors Wittgenstein, c'est un philosophe autrichien qui est né en 1889 et qui donc écrit ce traité, les premières lignes de ce traité de logique dans les tranchées de la guerre de 14. C'est un philosophe qui est assez peu connu du grand public, mais dont le travail est très important pour la philosophie du XXe siècle, notamment parce qu'il participe à la fondation et à l'évolution d'une nouvelle méthode de philosophie qu'on appelle la philosophie analytique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence » ? En fait, dans ce livre et en disant cela, Wittgenstein réfléchit aux limites du langage. Il part d'un constat simple. Le langage représente le monde comme une carte représente un territoire. Une phrase qui a du sens est comme une image. Elle décrit un état de choses possibles dans le monde. Si je dis « il pleut à Paris » ou « la table est ronde », voilà des phrases qui peuvent être vraies ou fausses et qui disent donc quelque chose que l'on peut vérifier en se rapportant à l'état du réel, c'est-à-dire en vérifiant qu'il y a bien de la pluie à Paris ou bien une table ronde dans le salon.
Mais toutes les phrases, Thibault, ne fonctionnent pas de cette manière. On peut les prononcer, mais ne disent en réalité rien du tout.
Oui, c'est exactement ce que Wittgenstein soutient, et c'est là que ça fait mal, parce que les phrases qui ne disent rien, au sens strict, pour Wittgenstein, eh bien, ce sont précisément celles dont nous parlons le plus volontiers et avec le plus de passion. Les phrases sur le sens de la vie, sur nos croyances, sur la morale, comme par exemple « Dieu existe, la vie a un sens, ceci est beau, cela est juste, ma femme m'aime, mes amis sont bons ». Voilà, pour Wittgenstein, aucune de ces propositions ne décrit un état de choses vérifiable dans le monde. Elles ne sont donc ni vraies ni fausses au sens logique. Elles sont, pour Wittgenstein, indicibles. On ne devrait pas, finalement, les prononcer. Alors, elles ne sont pas absurdes, non pas fausses, mais situées hors du champ de ce que le langage ordinaire peut légitimement exprimer. On peut toujours, bien sûr, continuer de les dire, mais dans ce cas, il ne faudra pas s'étonner si finalement on n'arrive pas à dire grand-chose et si on ne parvient surtout pas à s'entendre et à se comprendre en les disant. Alors, on pourrait croire que Wittgenstein est une sorte de positiviste froid, voilà, qui ne jure que par la science et maîtrise tout le reste. Mais en fait, c'est tout le contraire. Et c'est là le retournement assez magnifique de cette formule. Car ce dont on ne peut parler, Wittgenstein ne dit pas seulement qu'il faut garder le silence dessus, il ne dit pas que cela n'existe pas, il dit en fait que cela doit se montrer. Ce qui ne peut pas se dire se laisse voir, sentir ou éprouver dans un geste de générosité, par exemple, dans le silence d'une présence, dans une œuvre d'art ou bien dans une manière de faire, de se comporter, de vivre. Et c'est là qu'on peut remettre la poésie, on peut se remettre à parler de poésie. Car la poésie a toujours su, elle, que le langage avait ses limites et qu'il fallait donc le faire taire pour le faire montrer. Le poète ne renonce pas aux mots, il les tord, les étire, les brise, les fait résonner, les réassemble autrement. Il ne décrit pas donc, il image, il montre. Un vers de Rimbaud ou d'Amanda Gordman nous fait éprouver quelque chose que le discours ordinaire est incapable de formuler. C'est pour cela que les amoureux, donc, on le disait, écrivent des poèmes, parce que l'amour ne se dit pas, il se montre. Quand donc Wittgenstein nous dit « sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence », il invite surtout à ne plus parler pour ne rien dire, et à garder le silence, oui, mais à en prendre soin pour pouvoir l'habiter, lui donner du sens et trouver à travers lui d'autres manières de nous exprimer.
Thomas Schlesser, qui est en train de méditer votre chronique.
Oui, c'est passionnant ce que dit Thibault, et voilà ce que ça m'inspire. Les poètes ont eu par moments des grands accès de colère vis-à-vis d'eux-mêmes, précisément parce qu'ils percevaient les limites du langage. Ils ont essayé de nous donner le meilleur de ce que l'expression des sentiments peut engendrer. Néanmoins, sachez une chose, vous autres qui nous écoutez, c'est que vous n'êtes pas obligés de vous exprimer comme des poètes. Vous pouvez exprimer votre être au monde, votre amour, par tellement d'autres canaux. Vous pouvez sourire, vous pouvez offrir, vous pouvez jardiner. Prenez soin du tissu du vivant qui vous entoure. C'est une autre manière de faire de la poésie.
Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France Guillemette.
Non, mais je pense à une citation assez facile, mais tout de même, qui là peut-être peut résonner, c'est « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ».
Et merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci beaucoup Thomas Schlesser. C'est déjà un succès en librairie, Le chat du jardinier, publié chez Albin Michel. Merci d'être venu. Merci Jean-Joseph Julot. Bah tiens, on va pouvoir vous retrouver dimanche à 14h30 au Palais des Congrès à La Bolle. Vous donnez une dictée pour les nuls dans le cadre du Salon du Livre, le rendez-vous des écrivains. Et ce texte sera lu par Frédéric Vitoux de l'Académie française. Et a gagné 100 petites anthologies de la poésie française.
Repartir.
Et la nouvelle édition de votre poésie française pour les nuls paraîtra le 7 mai. Merci beaucoup à Cyrine Benyounès et Joseph Ascal pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noélia Filéol. Merci à Maria Pasquet pour la réalisation tout au long de cette semaine. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique tout au long de la semaine, Jérôme Ragano. Lundi, dans Grand Main vous fasse, on se demande s'il faut vraiment réguler son taux de cortisol, la fameuse hormone du stress. Ne me regardez pas comme ça, Guillemette. C'est ça aussi, grand bien vous fasse.
Ah mais non, mais j'étais en train d'apprendre que j'avais une hormone de plus, moi.
N'hésitez pas à poser vos questions sur le cortisol lundi dès 10h au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.